La prisonnière, chapitre 1er, suite 8. Je ne sais pourquoi le cours de mes rêveries, qui avait suivi jusque-là des souvenirs de musique, se détourna sur ceux qui en ont été, à notre époque, les meilleurs exécutants, et parmi lesquels, le surfaisant un peu, je faisais figurer Morel. Aussitôt, ma pensée fit un brusque crochet. Et c'est au caractère de Morel, à certaines des singularités de ce caractère, que je me mis à songer. Au reste, et cela pouvait se conjoindre, mais non se confondre avec la neurasthénie qui le rongeait. Morel avait l'habitude de parler de sa vie, mais en présentait une image si enténébrée qu'il était très difficile de rien distinguer. Il se mettait, par exemple, à la complète disposition de Monsieur de Charlus, à condition de garder ses soirées libres, car il désirait pouvoir, après le dîner, aller suivre un cours d'algèbre. Monsieur de Charlus autorisait, mais demandait à le voir après. « Impossible, c'est une vieille peinture italienne !» Cette plaisanterie n'a aucun sens, transcrite ainsi. Mais Monsieur de Charlus ayant fait lire à Morel l'éducation sentimentale, à l'avant-dernier chapitre duquel Frédéric Moreau dit cette phrase. Par plaisanterie, Morel ne prononçait jamais le mot « impossible » sans le faire suivre de ceci. « C'est une vieille peinture italienne. » Le cours dure fort tard et c'est déjà un grand dérangement pour le professeur, qui naturellement serait froissé. Mais il n'y a même pas besoin de cours. L'algèbre, ce n'est pas la natation, ni même l'anglais. Cela s'apprend aussi bien dans un livre. » répliquait Monsieur de Charlus, qui avait deviné aussitôt dans le cours d'algèbre une de ces images où on ne pouvait rien débrouiller du tout. C'était peut-être une coucherie avec une femme, ou si Morel cherchait à gagner de l'argent par des moyens louches et s'était affilié à la police secrète, une expédition avec des agents de la sûreté. Et qui sait, pis encore, l'attente d'un gigolo dont on pourra avoir besoin dans une maison de prostitution. « Bien plus facilement même, dans un livre, » répondait Morel à Monsieur de Charlus, « car on ne comprend rien à un cours d'algèbre. »« Alors, pourquoi ne l'étudies-tu pas plutôt chez moi, où tu es tellement plus confortablement ?» aurait pu répondre Monsieur de Charlus. Mais il s'en gardait bien, sachant qu'aussitôt, gardant seulement le même caractère nécessaire de réserver les heures du soir, le cours d'algèbre imaginé se fut changé immédiatement en une obligatoire leçon de danse ou de dessin. En quoi Monsieur de Charlus put s'apercevoir qu'il se trompait, en partie du moins, Morel s'occupant souvent chez le baron à résoudre des équations. Monsieur de Charlus objecta bien que l'algèbre ne pouvait guère servir à un violoniste. Morel riposta qu'elle était une distraction pour passer le temps et combattre la neurasthénie. Sans doute, Monsieur de Charlus eût pu chercher à se renseigner, à apprendre ce qu'étaient, au vrai, ces mystérieux et inéluctables cours d'algèbre qui ne se donnaient que la nuit. Mais pour s'occuper de dévider les chevaux des occupations de Morel, Monsieur de Charlus était trop engagé dans celles du monde. Les visites reçues ou faites, le temps passé au cercle, les dîners en ville, les soirées au théâtre, l'empêchaient d'y penser, ainsi qu'à cette méchanceté violente et sournoise que Morel avait à la fois, disait-on, laissé éclater et dissimuler dans les milieux successifs des différentes villes par où il avait passé, et où on ne parlait de lui qu'avec un frisson, en baissant la voix et sans oser rien raconter. Ce fut malheureusement un des éclats de cette nervosité méchante qu'il me fut donné, ce jour-là, d'entendre. Comme, ayant quitté le piano, j'étais descendu dans la cour pour aller au-devant d'Albertine, qui n'arrivait pas. En passant devant la boutique de Jupien, où Morel et celle que je croyais devoir être bientôt sa femme étaient seules, Morel criait à tue-tête, ce qui faisait sortir de lui un accent que je ne lui connaissais pas, paysan, refoulé d'habitude et extrêmement étrange. Les paroles ne l'étaient pas moins, fautives au point de vue du français, mais il connaissait tout imparfaitement. « Voulez-vous sortir, grand pied de grue? Grand pied de grue? Grand pied de grue ? » répétait-il à la pauvre petite, qui, certainement, au début, n'avait pas compris ce qu'il voulait dire, puis qui, tremblante et fière, restait immobile devant lui. « Je vous ai dit de sortir, grand pied de grue! Grand pied de grue! Allez chercher votre oncle pour que je lui dise ce que vous êtes, putain !» Juste à ce moment, la voix de Jupien, qui rentrait en causant avec un de ses amis, se fit entendre dans la cour. Et comme je savais que Morel était extrêmement poltron, je trouvai inutile de joindre mes forces à celles de Jupien et de son ami, lesquels dans un instant seraient dans la boutique. Et je remontai pour éviter Morel, qui, bien qu'ayant faim de tant désirer qu'on fît venir Jupien, probablement pour effrayer et dominer la petite par un chantage ne reposant peut-être sur rien, se hâta de sortir dès qu'il l'entendit dans la cour. Les paroles rapportées ne sont rien. Elles n'expliqueraient pas le battement de cœur avec lequel je remontais. Ces scènes auxquelles nous assistons dans la vie trouvent un élément de force incalculable dans ce que les militaires appellent, en matière d'offensive, le bénéfice de la surprise. Et j'avais beau éprouver tant de calme douceur à savoir qu'Albertine, au lieu de rester au Trocadéro, allait rentrer auprès de moi, je n'en avais pas moins dans l'oreille l'accent de ces mots 10 fois répétés « Grand pied de grue, grand pied de grue » qui m'avait bouleversé. Peu à peu, mon agitation se calma. Albertine allait rentrer. Je l'entendrais sonner à la porte dans un instant. Je sentais que ma vie n'était plus comme elle aurait pu être, et qu'avoir ainsi une femme avec qui tout naturellement, quand elle allait être de retour, je devrais sortir, vers l'embellissement de qui allaient être de plus en plus détournées les forces et l'activité de mon être, faisait de moi comme une tige accrue, mais alourdie par le fruit opulent en qui passent toutes ses réserves. Contrastant avec l'anxiété que j'avais encore il y a une heure, le calme que me causait le retour d'Albertine était plus vaste que celui que j'avais ressenti le matin avant son départ. Anticipant sur l'avenir, dont la docilité de mon ami me rendait à peu près maître, plus résistant, comme rempli et stabilisé par la présence imminente, importune, inévitable et douce, c'était le calme, nous dispensant de chercher le bonheur en nous-mêmes, qui naît d'un sentiment familial et d'un bonheur domestique. Familial et domestique. Tel fut encore, non moins que le sentiment qui avait amené tant de paix en moi, tandis que j'attendais Albertine, celui que j'éprouvais ensuite en me promenant avec elle. Elle ôta un instant son gant, soit pour toucher ma main, soit pour m'éblouir, en me laissant voir à son petit doigt, à côté de celle donnée par Madame Bontemps, une bague où s'étendait la large et liquide nappe d'une claire feuille de rubis. « Encore une nouvelle bague, Albertine. Votre tante est d'une générosité. »« Non, celle-là, ce n'est pas ma tante, » dit-elle en riant. « C'est moi qui l'ai achetée. Comme, grâce à vous, je peux faire de grandes économies. » Je ne sais même pas à qui elle a appartenu. Un voyageur qui n'avait pas d'argent la laissa au propriétaire d'un hôtel où j'étais descendu au Mans. Il ne savait qu'en faire et l'aurait vendue bien au-dessous de sa valeur. Mais elle était encore bien trop chère pour moi. Maintenant que, grâce à vous, je deviens une dame chic, je lui ai fait demander s'il l'avait encore. Et la voici. Cela fait bien des bagues, Albertine. Où mettrez-vous celle que je vais vous donner? En tout cas, celle-ci est très jolie. Je ne peux pas distinguer les ciselures autour du rubis. On dirait une tête d'homme et grimaçante, mais je n'ai pas une assez bonne vue. Vous l'auriez meilleur, que cela ne vous avancerait pas beaucoup. Je ne distingue pas non plus. » Jadis, il m'était souvent arrivé, en lisant des mémoires, un roman où un homme sort toujours avec une femme, goûte avec elle, de désirer pouvoir faire ainsi. J'avais cru parfois y réussir. Par exemple, en emmenant avec moi la maîtresse de Saint-Loup, en allant dîner avec elle. Mais j'avais beau appeler à mon secours l'idée que je jouais bien, à ce moment-là, le personnage que j'avais envié dans le roman, cette idée me persuadait que je devais avoir du plaisir auprès de Rachel, et ne m'en donnait pas. C'est que, chaque fois que nous voulons imiter quelque chose qui fut vraiment réel, nous oublions que ce quelque chose fut produit non par la volonté d'imiter, mais par une force inconsciente et réelle, elle aussi. Mais cette impression particulière que n'avait pu me donner tout mon désir d'éprouver un plaisir délicat à me promener avec Rachel, voici maintenant que je l'éprouvais, sans l'avoir cherché le moins du monde, mais pour des raisons tout autres, sincères, profondes. Pour citer un exemple, pour cette raison que ma jalousie m'empêchait d'être loin d'Albertine, et du moment que je pouvais sortir, de la laisser aller se promener sans moi. Je ne l'éprouvais que maintenant, parce que la connaissance est non des choses extérieures qu'on veut observer, mais des sensations involontaires. Parce qu'autrefois, une femme avait beau être dans la même voiture que moi, elle n'était pas en réalité à côté de moi tant que ne l'y recréait pas à tout instant un besoin d'elle, comme j'en avais un d'Albertine, tant que la caresse constante de mon regard ne lui rendait pas sans cesse ces teintes qui demandent à être perpétuellement rafraîchies, tant que les sens, même apaisés, mais qui se souviennent, ne mettaient pas sous ces couleurs la saveur et la consistance, tant qu'unis aux sens et à l'imagination qui les exalte, la jalousie ne maintenait pas cette femme en équilibre auprès de moi par une attraction compensée, aussi puissante que la loi de la gravitation. Notre voiture descendait vite les boulevards, les avenues, dont les hôtels, en rangée, rose congélation de soleil et de froid, me rappelaient mes visites chez Madame Swann, doucement éclairées par les chrysanthèmes en attendant l'heure des lampes. J'avais à peine le temps d'apercevoir, aussi séparé d'elle derrière la vitre de l'auto que je l'aurais été derrière la fenêtre de ma chambre, une jeune fruitière, une crémière, debout devant sa porte, illuminée par le beau temps, comme une héroïne que mon désir suffisait à engager dans des péripéties délicieuses, au seuil d'un roman que je ne connaîtrais pas. Car je ne pouvais demander à Albertine de m'arrêter, et déjà n'étaient plus visibles les jeunes femmes dont mes yeux avaient à peine distingué les traits et caressé la fraîcheur dans la blonde vapeur où elles étaient baignées. L'émotion dont je me sentais saisie en apercevant la fille d'un marchand de vin à sa caisse ou une blanchisseuse causant dans la rue était l'émotion qu'on a à reconnaître des déesses. Depuis que l'Olympe n'existe plus, ses habitants vivent sur la terre. Et quand, faisant un tableau mythologique, les peintres ont fait poser pour Vénus ou Cérès des filles du peuple, exerçant les plus vulgaires métiers, bien loin de commettre un sacrilège, ils n'ont fait que leur ajouter, que leur rendre la qualité, les attributs divins dont elles étaient dépouillées. Comment vous a semblé le Trocadéro, petite folle ? Je suis rudement contente de l'avoir quitté pour venir avec vous. Comme monument, c'est assez moche, n'est-ce pas? C'est de Davioud, je crois. Mais comme ma petite Albertine s'instruit! En effet, c'est de Davioud, mais je l'avais oublié. Pendant que vous dormez, je lis vos livres, grand paresseux. Petite, voilà, vous changez tellement vite et vous devenez tellement intelligente. C'était vrai. Mais de plus, je n'étais pas fâchée qu'elle eût la satisfaction, à défaut d'autres, de se dire que, du moins, le temps qu'elle passait chez moi n'était pas entièrement perdu pour elle. que je vous dirai, au besoin, des choses qui seraient généralement considérées comme fausses et qui correspondent à une vérité que je cherche. Vous savez ce que c'est que l'impressionnisme ? Très bien. Eh bien, voyez ce que je veux dire. Vous vous rappelez l'église de Marcouville, l'orgueilleuse, qu'Elstir n'aimait pas parce qu'elle était neuve. Est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec son propre impressionnisme quand il retire ainsi ses monuments de l'impression globale où ils sont compris pour les amener hors de la lumière où ils sont dissous et examiner en archéologue leur valeur intrinsèque? Quand il peint, est-ce qu'un hôpital, une école, une affiche sur un mur ne sont pas de la même valeur qu'une cathédrale inestimable qui est à côté dans une image indivisible? Rappelez-vous, comme la façade était cuite par le soleil, comme le relief de ces saints de Marcouville surnageait dans la lumière. Qu'importe qu'un monument soit neuf, s'il paraît vieux, et même s'il ne le paraît pas, ce que les vieux quartiers contiennent de poésie a été extrait jusqu'à la dernière goutte. Mais certaines maisons nouvellement bâties par de petits bourgeois cossus, dans des quartiers neufs, où la pierre trop blanche est fraîchement sciée, ne déchire-t-elle pas l'air torride de midi en juillet, à l'heure où les commerçants reviennent déjeuner dans la banlieue, d'un cri aussi acide que l'odeur des cerises, attendant que le déjeuner soit servi dans la salle à manger obscure, où les prismes de verre, pour poser les couteaux, projettent des feux multicolores, et aussi beaux que les verrières de Chartres? Ce que vous êtes gentil! Si je deviens jamais intelligente, ce sera grâce à vous. Pourquoi, dans une belle journée, détacher ses yeux du Trocadéro, dont les tours en cou de girafe font penser à la Chartreuse de Pavie? Il m'a rappelé aussi, dominant comme cela sur son tertre, une reproduction de Mantegna que vous avez. Je crois que c'est Saint-Sébastien, où il y a au fond une ville en amphithéâtre, et où on jurerait qu'il y a le Trocadéro. Vous voyez bien. Mais comment avez-vous vu la reproduction de Mantegna? Vous êtes renversante. Nous étions arrivés dans des quartiers plus populaires, et l'érection d'une Vénus ancillaire derrière chaque comptoir faisait de lui comme un hôtel suburbain au pied duquel j'aurais voulu passer ma vie. Comme on fait à la veille d'une mort prématurée, je dressais le compte des plaisirs dont me privait le point final qu'Albertine mettait à ma liberté. À Passy, ce fut sur la chaussée même, à cause de l'encombrement, que des jeunes filles, se tenant par la taille, m'émerveillèrent de leur sourire. Je n'eus pas le temps de le bien distinguer, mais il était peu probable que je le surfisse. Dans toute foule, en effet, dans toute foule jeune, il n'est pas rare que l'on rencontre l'effigie d'un noble profil, de sorte que ces cohues populaires des jours de fête sont pour le voluptueux aussi précieuses que pour l'archéologue le désordre d'une terre où une fouille fait apparaître des médailles antiques. Nous arrivâmes au bois. Je pensais que, si Albertine n'était pas sortie avec moi, je pourrais en ce moment, au cirque des Champs-Élysées, entendre la tempête wagnérienne faire gémir tous les cordages de l'orchestre, attirer à elle, comme une écume légère, l'air de chalumeau que j'avais joué tout à l'heure, le faire voler, le pétrir, le déformer, le diviser, l'entraîner dans un tourbillon grandissant. Du moins, je voulus que notre promenade fût courte et que nous rentrions de bonne heure, car, sans en parler à Albertine, j'avais décidé d'aller le soir chez les Verdurin. Ils m'avaient envoyé dernièrement une invitation que j'avais jetée au panier avec toutes les autres. Mais je me ravisais pour ce soir, car je voulais tâcher d'apprendre quelle personne Albertine avait pu espérer rencontrer l'après-midi chez eux. À vrai dire, j'en étais arrivé avec Albertine à ce moment où, si tout continue de même, si les choses se passent normalement, une femme ne sert plus pour nous que de transition avec une autre femme. Elle tient à notre cœur encore, mais bien peu. Nous avons hâte d'aller chaque soir trouver des inconnus, et surtout des inconnus connus d'elle, lesquels pourront nous raconter sa vie. Elle, en effet, nous avons possédé, épuisé tout ce qu'elle a consenti à nous livrer d'elle-même. Sa vie, c'est elle-même encore, mais justement la partie que nous ne connaissons pas, les choses sur quoi nous l'avons vainement interrogée et que nous pourrons recueillir sur des lèvres neuves. Si ma vie avec Albertine devait m'empêcher d'aller à Venise, de voyager, du moins j'aurais pu tantôt, si j'avais été seule, connaître les jeunes midinettes éparses dans l'ensoleillement de ce beau dimanche, et dans la beauté de qui je faisais entrer pour une grande part la vie inconnue qui les animait. Les yeux qu'on voit, ne sont-ils pas tout pénétrés par un regard dont on ne sait pas les images, les souvenirs, les attentes, les dédains qu'ils portent et dont on ne peut pas les séparer? Cette existence, qui est celle de l'être qui passe, ne donnera-t-elle pas, selon ce qu'elle est, une valeur variable au froncement de ses sourcils, à la dilatation de ses narines? La présence d'Albertine me privait d'aller à elle, et peut-être ainsi de cesser de les désirer. Celui qui veut entretenir en soi le désir de continuer à vivre et la croyance en quelque chose de plus délicieux que les choses habituelles doit se promener, car les rues, les avenues sont pleines de déesses. Mais les déesses ne se laissent pas approcher. Ça et là, entre les arbres, à l'entrée de quelques cafés, une servante veillait, comme une nymphe à l'orée d'un bois sacré. Tandis qu'au fond, trois jeunes filles étaient assises à côté de l'arc immense de leurs bicyclettes posées à côté d'elles, comme trois immortelles accoudées aux nuages ou aux coursiers fabuleux sur lesquels elles accomplissaient leur voyage mythologique. Je remarquais que chaque fois qu'Albertine les regardait un instant, toutes ces filles, avec une attention profonde, se retournaient aussitôt vers moi. Mais je n'étais trop tourmentée, ni par l'intensité de cette contemplation, ni par sa brièveté, que l'intensité compensait. En effet, pour cette dernière, il arrivait souvent qu'Albertine, soit fatigue, soit manière de regarder particulière à un être attentif, considérait ainsi, dans une sorte de méditation, fût-ce mon père, fût-ce Françoise. Et quant à sa vitesse à se retourner vers moi, elle pouvait être motivée par le fait qu'Albertine, connaissant mes soupçons, pouvait vouloir, même s'il n'était pas justifié, éviter de leur donner prise. Cette attention, d'ailleurs, qui m'eût semblé criminelle de la part d'Albertine, et tout autant si elle avait eu pour objet des jeunes gens, je l'attachais, sans me croire un instant coupable, et en trouvant presque qu'Albertine l'était en m'empêchant par sa présence, de m'arrêter et de descendre vers elle, sur toutes les midinettes. On trouve innocent de désirer, et atroce que l'autre désire. Et ce contraste entre ce qui concerne ou bien nous, ou bien celle que nous aimons, n'a pas trait au désir seulement, mais aussi au mensonge. Quelle chose plus usuelle que lui, qu'il s'agisse de masquer, par exemple, les faiblesses quotidiennes d'une santé qu'on veut faire croire forte, de dissimuler un vice, ou d'aller, sans froisser autrui, à la chose que l'on préfère. Il est l'instrument de conservation le plus nécessaire et le plus employé. Or, c'est lui que nous avons la prétention de bannir de la vie de celle que nous aimons. C'est lui que nous épions, que nous flairons, que nous détestons partout. Il nous bouleverse, il suffit à amener une rupture. Il nous semble cacher les plus grandes fautes, à moins qu'il ne les cache si bien que nous ne les soupçonnions pas. Étrange état que celui où nous sommes à ce point sensibles à un agent pathogène que son pullulement universel rend inoffensif aux autres, et si grave pour le malheureux qui ne se trouve plus avoir d'immunité contre lui. La vie de ces jolies filles, à cause de mes longues périodes de réclusion, j'en rencontrais si rarement, me paraissait, ainsi qu'à tous ceux chez qui la facilité des réalisations n'a pas amorti la puissance de concevoir, quelque chose d'aussi différent de ce que je connaissais, d'aussi désirable que les villes les plus merveilleuses que promet le voyage. La déception éprouvée auprès des femmes que j'avais connues dans les villes où j'étais allée ne m'empêchait pas de me laisser prendre à l'attrait des nouvelles et de croire à leur réalité. Aussi de même que voir Venise. Venise dont le temps printanier me donnait aussi la nostalgie et que le mariage avec Albertine m'empêcherait de connaître. Voir Venise dans un panorama que ce qui eût peut-être déclaré plus joli de ton que la ville réelle, ne m'eût en rien remplacé le voyage à Venise, dont la longueur déterminée, sans que j'y fusse pour rien, me semblait indispensable à franchir. De même, si jolie fut-elle, la midinette qu'une entremetteuse m'eût artificiellement procurée n'eût nullement pu se substituer pour moi à celle qui, la taille dégingandée, passait en ce moment sous les arbres en riant avec une amie. Celle que j'eusse trouvée dans une maison de passe, eût-elle été plus jolie que cela, n'eût pas été la même chose, parce que nous ne regardons pas les yeux d'une fille que nous ne connaissons pas, comme nous ferions d'une petite plaque d'opale ou d'agate. Nous savons que le petit rayon qui les irise, ou les grains de brillant qui les font étinceler, sont tout ce que nous pouvons voir d'une pensée, d'une volonté, d'une mémoire, où réside la maison familiale que nous ne connaissons pas, les amis chers que nous envions. Arriver à nous emparer de tout cela, qui est si difficile, si rétif, c'est ce qui donne sa valeur au regard, bien plus que sa seule beauté matérielle. Par quoi peut-être expliquer qu'un même jeune homme éveille tout un roman dans l'imagination d'une femme qui a entendu dire qu'il était le prince de Galles, alors qu'elle ne fait plus attention à lui quand elle apprend qu'elle s'est trompée. Trouver la midinette dans la maison de passe, c'est la trouver vidée de cette vie inconnue qui la pénètre et que nous aspirons à posséder avec elle. C'est nous approcher Dieu devenu en effet de simples pierres précieuses, d'un nez dont le froncement est aussi dénué de signification que celui d'une fleur. Non, cette midinette inconnue et qui passait par là, il me semblait aussi indispensable, si je voulais continuer à croire à sa réalité, d'essayer ses résistances, en y adaptant mes directions, en allant au-devant d'un affront, en revenant à la charge, en obtenant un rendez-vous, en l'attendant à la sortie des ateliers, en connaissant, épisode par épisode, ce qui composait la vie de cette petite, en traversant ce dont s'enveloppait pour elle le plaisir que je cherchais et la distance que ses habitudes différentes et sa vie spéciale mettaient entre moi et l'attention, la faveur que je voulais atteindre et capter. Que de faire un long trajet en chemin de fer si je voulais croire à la réalité de la Venise, que je verrais et qui ne serait pas qu'un spectacle d'exposition universelle. Mais ces similitudes même du désir et du voyage firent que je me promis de serrer un jour d'un peu plus près la nature de cette force invisible, mais aussi puissante que les croyances, ou, dans le monde physique, que la pression atmosphérique, qui portait si haut les cités, les femmes, tant que je ne les connaissais pas, et qui se dérobaient sous elles dès que je les avais approchées, les faisaient tomber aussitôt à plat sur le terre-à-terre de la plus triviale réalité. Plus loin, une autre fillette était agenouillée près de sa bicyclette qu'elle arrangeait. Une fois la réparation faite, la jeune coureuse monta sur sa bicyclette, mais sans l'enfourcher comme y fait un homme. Pendant un instant, la bicyclette tangua, et le jeune corps semblait s'être accru d'une voile, d'une aile immense. Et bientôt nous vîmes s'éloigner à toute vitesse la jeune créature mi-humaine, mi-ailée, ange ou péri, poursuivant son voyage. Voilà ce dont une vie avec Albertine me privait, justement. Dont elle me privait, n'aurais-je pas dû penser, dont elle me gratifiait, au contraire. Si Albertine n'avait pas vécu avec moi, avait été libre. J'eusse imaginé, et avec raison, toutes ces femmes comme des objets possibles, probables, de son désir, de son plaisir. Elles me fussent apparues comme ces danseuses qui, dans un ballet diabolique, représentant les tentations pour un être, lancent leurs flèches au cœur d'un autre être. Les midinettes, les jeunes filles, les comédiennes, comme je les aurais haïes. Objets d'horreur, elles eussent été acceptées pour moi de la beauté de l'univers. Le servage d'Albertine, en me permettant de ne plus souffrir par elle, les restituait à la beauté du monde, inoffensive, ayant perdu l'aiguillon qui met au cœur la jalousie. Il m'était loisible de les admirer, de les caresser du regard, un autre jour, plus intimement peut-être. En enfermant Albertine, j'avais du même coup rendu à l'univers toutes ces ailes chatoyantes qui bruissent dans les promenades, dans les bals, dans les théâtres, et qui redevenaient tentatrices pour moi, parce qu'elles ne pouvaient plus succomber à la tentation. Elles faisaient la beauté du monde. Elles avaient fait jadis celle d'Albertine. C'est parce que je l'avais vue comme un oiseau mystérieux, puis comme une grande actrice de la plage, désirée, obtenue peut-être, que je l'avais trouvée merveilleuse. Une fois captif chez moi, l'oiseau que j'avais vu un soir marcher à pas comptés sur la digue, entouré de la congrégation des autres jeunes filles, pareilles à des mouettes, venues on ne sait d'où, Albertine avait perdu toutes ses couleurs, avec toutes les chances qu'avaient les autres de la voir à eux. Elle avait peu à peu perdu sa beauté. Il fallait des promenades comme celle-là, où je l'imaginais, sans moi, accostée par telle femme ou tel jeune homme, pour que je la revisse dans la splendeur de la plage, bien que ma jalousie fût sur un autre plan que le déclin des plaisirs de mon imagination. Mais malgré ces brusques sursauts, où, désirée par d'autres, elle me redevenait belle, je pouvais très bien diviser son séjour chez moi en deux périodes. La première, où elle était encore, quoique moins chaque jour, la chatoyante actrice de la plage. La seconde, où, devenue la grise prisonnière, réduite à son terne elle-même, il lui fallait ses éclairs, où je me ressouvenais du passé pour lui rendre des couleurs. Parfois, dans les heures où elle m'était le plus indifférente, me revenait le souvenir d'un moment lointain où, sur la plage, quand je ne la connaissais pas encore, non loin de telle dame avec qui j'étais fort mal, et avec qui j'étais presque certain maintenant qu'elle avait eu des relations, elle éclatait de rire en me regardant d'une façon insolente. La mer, polie et bleue, bruissait tout autour. Dans le soleil de la plage, Albertine, au milieu de ses amis, était la plus belle. C'était une fille magnifique, qui, dans le cadre habituel d'eaux immenses, m'avait, elle, précieuse à la dame qui l'admirait, infligeait ce définitif affront. Il était définitif, car la dame retournait peut-être à Balbec, constatait peut-être, sur la plage lumineuse et bruissante, l'absence d'Albertine. Mais elle ignorait que la jeune fille vécut chez moi, rien qu'à moi. Les eaux immenses et bleues, l'oubli des préférences qu'elle avait pour cette jeune fille et qui allait à d'autres, s'était refermé sur l'avanie que m'avait faite Albertine, l'enfermant dans un éblouissant et infrangible écrin. Alors, la haine pour cette femme mordait mon cœur. Pour Albertine aussi, mais une haine mêlée d'admiration pour la belle jeune fille adulée, à la chevelure merveilleuse et dont l'éclat de rire sur la plage était un affront. La honte, la jalousie, le ressouvenir des désirs premiers et du cadre éclatant avaient redonné à Albertine sa beauté, sa valeur d'autrefois. Et ainsi alternait, avec l'ennui un peu lourd que j'avais auprès d'elle, un désir frémissant, plein d'orages magnifiques et de regrets. Selon qu'elle était à côté de moi dans ma chambre, ou que je lui rendais sa liberté dans ma mémoire, sur la digue, dans ses gais costumes de plage, au jeu des instruments de musique de la mer, Albertine, tantôt sortie de ce milieu, possédée et sans grande valeur, tantôt replongée en lui, m'échappant dans un passé que je ne pourrais connaître, m'offensant auprès de son ami, autant que l'éclaboussure de la vague ou l'étourdissement du soleil. Albertine, remise sur la plage ou rentrée dans ma chambre, en une sorte d'amour amphibie. Ailleurs, une bande nombreuse jouait au ballon. Toutes ces fillettes avaient voulu profiter du soleil, car ces journées de février, même quand elles sont si brillantes, ne durent pas tard, et la splendeur de leur lumière ne retarde pas la venue de son déclin. Avant qu'il fût encore proche, nous eûmes quelque temps de pénombre, parce qu'après avoir poussé jusqu'à la Seine, où Albertine admira, et par sa présence m'empêcha d'admirer, les reflets de voiles rouges sur l'eau hivernale et bleue, une maison blottie au loin comme un seul coquelicot dans l'horizon clair, dont Saint-Cloud semblait, plus loin, la pétrification fragmentaire, friable et côtelée. Nous descendîmes de voiture et marchâmes longtemps. Même pendant quelques instants, je lui donnai le bras, et il me semblait que cet anneau que le sien faisait sous le mien unissait en un seul être nos deux personnes et attachait l'une à l'autre nos deux destinées. À nos pieds, nos ombres parallèles, rapprochées et jointes, faisaient un dessin ravissant. Sans doute, il me semblait déjà merveilleux, à la maison, qu'Albertine habitât avec moi, que ce fut elle qui s'étendit sur mon lit. Mais c'en était comme l'exportation au dehors, en pleine nature, que devant ce lac du bois, que j'aimais tant, au pied des arbres, ce fut justement son ombre, l'ombre pure et simplifiée de sa jambe, de son buste, que le soleil eut à peindre au lavis, à côté de la mienne, sur le sable de l'allée. Et je trouvais un charme, plus immatériel sans doute, mais non pas moins intime, qu'au rapprochement, à la fusion de nos corps, à celle de nos ombres. Puis nous remontâmes dans la voiture. Et elle s'engagea, pour le retour, dans de petites allées sinueuses, où les arbres d'hiver, habillés de lierre et de ronces, comme des ruines, semblaient conduire à la demeure d'un magicien. À peine sortis de leur couvert assombri, nous retrouvâmes, pour sortir du bois, le plein jour, si clair encore que je croyais avoir le temps de faire tout ce que je voudrais avant le dîner. Quand, quelques instants seulement après, au moment où notre voiture approchait de l'Arc de Triomphe, ce fut avec un brusque mouvement de surprise et d'effroi que j'aperçus au-dessus de Paris la lune, pleine et prématurée, comme le cadran d'une horloge arrêtée, qui nous fait croire qu'on s'est mis en retard. Nous avions dit au cocher de rentrer. Pour Albertine, c'était aussi revenir chez moi. La présence des femmes, si aimées soient-elles, qui doivent nous quitter pour rentrer, ne donne pas cette paix que je goûtais dans la présence d'Albertine, assise au fond de la voiture à côté de moi. Présence qui nous acheminait, non au vide des heures où l'on est séparés, mais à la réunion plus stable encore et mieux enclose dans mon chez-moi, qui était aussi son chez-elle, symbole matériel de la possession que j'avais d'elle. Certes, pour posséder, il faut avoir désiré. Nous ne possédons une ligne, une surface, un volume, que si notre amour l'occupe. Mais Albertine n'avait pas été pour moi, pendant notre promenade, comme avait été jadis Rachel, une vaine poussière de chair et d'étoffe. L'imagination de mes yeux, de mes lèvres, de mes mains, avait, à Balbec, si solidement construit, si tendrement poli son corps, que maintenant, dans cette voiture, pour toucher ce corps, pour le contenir, je n'avais pas besoin de me serrer contre Albertine, ni même de la voir. Il me suffisait de l'entendre, et si elle se taisait, de la savoir auprès de moi. Mes sens, tressés ensemble, l'enveloppaient tout entière. Et quand, arrivée devant la maison, tout naturellement elle descendit, je m'arrêtai un instant pour dire au chauffeur de revenir me prendre. Mais mes regards l'enveloppaient encore, tandis qu'elle s'enfonçait devant moi sous la voûte. Et c'était toujours ce même calme inerte et domestique que je goûtais à la voir ainsi lourde, empourprée, opulente et captive, rentrer tout naturellement avec moi, comme une femme que j'avais à moi, et, protégée par les murs, disparaître dans notre maison. Malheureusement, elle semblait s'y trouver en prison, et être de l'avis de cette madame de La Rochefoucauld, qui, comme on lui demandait si elle n'était pas contente d'être dans une aussi belle demeure que Liancourt, répondit qu'il n'est pas de belle prison. Si j'en jugeais par l'air triste et las qu'elle eut ce soir-là pendant notre dîner en tête-à-tête dans sa chambre. Je ne le remarquais pas d'abord, et c'était moi qui me désolais de penser que, s'il n'y avait pas eu Albertine, car avec elle j'eusse trop souffert de la jalousie dans un hôtel où elle eût toute la journée subi le contact de tant d'êtres, je pourrais en ce moment dîner à Venise, dans une de ces petites salles à manger surbaissées comme une cale de navire, et où on voit le grand canal par de petites fenêtres cintrées qu'entourent des moulures mauresques. Je dois ajouter qu'Albertine admirait beaucoup chez moi un grand bronze de Barbedienne, qu'avec beaucoup de raisons, Bloch trouvait fort laid. Il en avait peut-être moins de s'étonner que je l'eusse gardé. Je n'avais jamais cherché comme lui à faire des ameublements artistiques, à composer des pièces. J'étais trop paresseux pour cela, trop indifférent à ce que j'avais l'habitude d'avoir sous les yeux. Puisque mon goût ne s'en souciait pas, j'avais le droit de ne pas nuancer mon intérieur. J'aurais peut-être pu, malgré cela, ôter le bronze. Mais les choses laides et cossues sont fort utiles, car elles ont auprès des personnes qui ne nous comprennent pas, qui n'ont pas notre goût et dont nous pouvons être amoureux, un prestige que n'aurait pas une fière chose qui ne révèle pas sa beauté. Or, les êtres qui ne nous comprennent pas sont justement les seuls à l'égard desquels il puisse nous être utile d'user d'un prestige que notre intelligence suffit à nous assurer auprès d'êtres supérieurs. Albertine avait beau commencer à avoir du goût, elle avait encore un certain respect pour le bronze, et ce respect rejaillissait sur moi en une considération qui, venant d'Albertine, m'importait infiniment plus que de garder un bronze un peu déshonorant, puisque j'aimais Albertine. Mais la pensée de mon esclavage cessait tout d'un coup de me peser, et je souhaitais de le prolonger encore, parce qu'il me semblait apercevoir qu'Albertine sentait cruellement le sien. Sans doute, chaque fois que je lui avais demandé si elle ne se déplaisait pas chez moi, elle m'avait toujours répondu qu'elle ne savait pas où elle pourrait être plus heureuse. Mais souvent, ses paroles étaient démenties par un air de nostalgie, d'énervement. Certes, si elle avait les goûts que je lui avais crus, cet empêchement de jamais les satisfaire devait être aussi excitant pour elle qu'il était calmant pour moi. Calmant au point que j'eusse trouvé l'hypothèse que je l'avais accusée injustement la plus vraisemblable, si, dans celle-ci, je n'eusse eu beaucoup de peine à expliquer cette application extraordinaire que mettait Albertine à ne jamais être seule, à ne jamais être libre, à ne pas s'arrêter un instant devant la porte quand elle rentrait, à se faire accompagner ostensiblement, chaque fois qu'elle allait téléphoner, par quelqu'un qui pût me répéter ses paroles, par Françoise, par André, à me laisser toujours seule, sans avoir l'air que ce fût exprès, avec cette dernière, quand elles étaient sorties ensemble, pour que je puisse me faire faire un rapport détaillé sur leur sortie. Avec cette merveilleuse docilité, contrastaient certains mouvements, vite réprimés, d'impatience, qui me firent me demander si Albertine n'aurait pas formé le projet de secouer sa chaîne. Des faits accessoires étayaient ma supposition. Ainsi, un jour où j'étais sortie seule, ayant rencontré près de Passy Gisèle, nous causâmes de choses et d'autres. Bientôt, assez heureux de pouvoir le lui apprendre, je lui dis que je voyais constamment Albertine. Gisèle me demanda où elle pourrait la trouver, car elle avait justement quelque chose à lui dire. « Quoi donc ?»« Des choses qui se rapportent à de petites camarades à elle. »« Quelles camarades ? Je pourrais peut-être vous renseigner, ce qui ne vous empêchera pas de la voir. » Oh, des camarades d'autrefois, je ne me rappelle pas les noms, répondit Gisèle d'un air vague, en battant en retraite. Elle me quitta, croyant avoir parlé avec une prudence telle que rien ne pouvait me paraître que très clair. Mais le mensonge est si peu exigeant, a besoin de si peu de choses pour se manifester. S'il s'était agi de camarades d'autrefois, dont elle ne savait pas même les noms, pourquoi aurait-elle eu, justement, besoin d'en parler à Albertine? Cet adverbe, assez parent d'une expression chère à Madame Cottard, cela tombe à pic, ne pouvait s'appliquer qu'à une chose particulière, opportune, peut-être urgente, se rapportant à des êtres déterminés. D'ailleurs, rien que la façon d'ouvrir la bouche, comme quand on va bâiller d'un air vague, en me disant, en reculant presque avec son corps, comme elle faisait machine en arrière à partir de ce moment dans notre conversation. « Ah, je ne sais pas, je ne me rappelle pas les noms !» faisait aussi bien de sa figure, et, s'accordant avec elle, de sa voix, une figure de mensonge, que l'air tout autre, serré, animé, à l'avant, de « j'ai justement » signifiait une vérité. Je ne questionnais pas Gisèle. À quoi cela m'eût-il servi? Certes, elle ne mentait pas de la même manière qu'Albertine. Et certes, les mensonges d'Albertine m'étaient plus douloureux. Mais d'abord, il y avait entre eux un point commun. Le fait même du mensonge, qui dans certains cas est une évidence, non pas de la réalité qui se cache dans ce mensonge. On sait bien que chaque assassin, en particulier, s'imagine avoir tout si bien combiné qu'il ne sera pas pris. Et parmi les menteurs, plus particulièrement les femmes qu'on aime. On ignore où elle est allée, ce qu'elle a fait. Mais au moment même où elle parle d'une autre chose, sous laquelle il y a cela qu'elle ne dit pas, le mensonge est perçu instantanément. Et la jalousie redoublée, puisqu'on sent le mensonge, et qu'on n'arrive pas à savoir la vérité. Chez Albertine, la sensation du mensonge était donnée par bien des particularités qu'on a déjà vues au cours de ce récit. Mais principalement par ceci que, quand elle mentait, son récit péchait soit par insuffisance, omission, invraisemblance, soit par excès, au contraire, de petits faits destinés à le rendre vraisemblable. Le vraisemblable, malgré l'idée que se fait le menteur, n'est pas du tout le vrai. Dès qu'en écoutant quelque chose de vrai, on entend quelque chose qui est seulement vraisemblable, qu'il est peut-être plus que le vrai, qu'il est peut-être trop, l'oreille un peu musicienne sent que ce n'est pas comme cela, comme pour un vers faux ou un mot lu à haute voix pour un autre. L'oreille le sent, et si l'on aime, le cœur s'alarme. Que ne songe-t-on alors quand on change toute sa vie parce qu'on ne sait pas si une femme est passée rue de Berry ou rue Washington? Que ne songe-t-on que ces quelques mètres de différence et la femme elle-même seront réduits au 100 millionième, c'est-à-dire à une grandeur que nous ne pouvons percevoir, si seulement nous avons la sagesse de rester quelques années sans voir cette femme? Et que ce qui était Gulliver, en bien plus grand, deviendra une lilliputienne, qu'aucun microscope. Au moins du cœur, car celui de la mémoire indifférente est plus puissant et moins fragile. Ne pourra plus percevoir. Quoi qu'il en soit, s'il y avait un point commun, le mensonge même, entre ceux d'Albertine et de Gisèle, pourtant Gisèle ne mentait pas de la même manière qu'Albertine. Ni non plus de la même manière qu'André. Mais leurs mensonges respectifs s'emboîtaient si bien les uns dans les autres, tout en présentant une grande variété, que la petite bande avait la solidité impénétrable de certaines maisons de commerce, de librairie ou de presse, par exemple, où le malheureux auteur n'arrivera jamais, malgré la diversité des personnalités composantes, à savoir s'il est ou non floué. Le directeur du journal ou de la revue ment avec une attitude de sincérité d'autant plus solennelle qu'il a besoin de dissimuler, en maintes occasions, qu'il fait exactement la même chose et se livre aux mêmes pratiques mercantiles que celles qu'il a flétries chez les autres directeurs de journaux ou de théâtre, chez les autres éditeurs, quand il a pris pour bannière levée contre eux l'étendard de la sincérité. Avoir proclamé, comme chef d'un parti politique, comme n'importe quoi, qu'il est atroce de mentir, oblige le plus souvent à mentir plus que les autres, sans quitter pour cela le masque solennel, sans déposer la tiare auguste de la sincérité. L'associé de l'homme sincère ment autrement et de façon plus ingénue. Il trompe son auteur comme il trompe sa femme avec des trucs de vaudeville. Le secrétaire de la rédaction, honnête homme et grossier, ment tout simplement, comme un architecte qui vous promet que votre maison sera prête à une époque où elle ne sera pas commencée. Le rédacteur en chef, âme angélique, voltige au milieu des trois autres, et sans savoir de quoi il s'agit, leur porte, par scrupule fraternel et tendre solidarité, le secours précieux d'une parole insoupçonnable. Ces quatre personnes vivent dans une perpétuelle dissension que l'arrivée de l'auteur fait cesser. Par-dessus les querelles particulières, chacun se rappelle le grand devoir militaire de venir en aide au corps menacé. Sans m'en rendre compte, j'avais depuis longtemps joué le rôle de cet auteur vis-à-vis de la petite bande. Si Gisèle avait pensé, quand elle avait dit « Justement, à tel camarade d'Albertine disposé à voyager avec elle, dès que mon ami, sous un prétexte ou un autre, m'aurait quitté, et à prévenir Albertine que l'heure était venue ou sonnerait bientôt, Gisèle se serait fait couper en morceaux plutôt que de me le dire. Il était donc bien inutile de lui poser des questions. Des rencontres comme celle de Gisèle n'étaient pas seules à accentuer mes doutes. Par exemple, j'admirais les peintures d'Albertine. Les peintures d'Albertine, touchante distraction de la captive, m'émurent tant que je la félicitais. « Non, c'est très mauvais, mais je n'ai jamais pris une seule leçon de dessin. » Mais un soir, vous m'aviez fait dire à Balbec que vous étiez resté à prendre une leçon de dessin. Je lui rappelai le jour et lui dis que j'avais bien compris tout de suite qu'on ne prenait pas de leçon de dessin à cette heure-là. Albertine rougit. « C'est vrai, » dit-elle, « je ne prenais pas de leçon de dessin. Je vous ai beaucoup menti au début. Cela, je le reconnais. Mais je ne vous mens plus jamais. » J'aurais tant voulu savoir quels étaient les nombreux mensonges du début. Mais je savais d'avance que ses aveux seraient de nouveaux mensonges. Aussi, je me contentais de l'embrasser. Je lui demandai seulement un de ses mensonges. Elle répondit « Eh bien, par exemple, que l'air de la mer me faisait mal. » Je cessai d'insister devant ce mauvais vouloir. Pour lui faire paraître sa chaîne plus légère, le mieux était sans doute de lui faire croire que j'allais moi-même la rompre. En tout cas, ce projet mensonger, je ne pouvais le lui confier en ce moment. Elle était revenue avec trop de gentillesse du Trocadéro tout à l'heure. Ce que je pouvais faire, bien loin de l'affliger d'une menace de rupture, c'était tout au plus de taire les rêves de perpétuelle vie commune que formait mon cœur reconnaissant. En la regardant, j'avais de la peine à me retenir de les épancher en elle, et peut-être s'en apercevait-elle. Malheureusement, leur expression n'est pas contagieuse. Le cas d'une vieille femme maniérée, comme Monsieur de Charlus, qui, à force de ne voir dans son imagination qu'un fier jeune homme, croit devenir lui-même fier jeune homme, et d'autant plus qu'il devient plus maniéré et plus risible. Ce cas est plus général, et c'est l'infortune d'un amant épris de ne pas se rendre compte que, tandis qu'il voit une figure belle devant lui, sa maîtresse voit sa figure à lui, qui n'est pas rendue belle, au contraire, quand la déforme le plaisir qui fait naître la vue de la beauté. Et l'amour n'épuise même pas toute la généralité de ce cas. Nous ne voyons pas notre corps que les autres voient, et nous suivons notre pensée, l'objet invisible aux autres qui est devant nous. Cet objet-là, parfois l'artiste le fait voir dans son œuvre. De là vient que les admirateurs de celle-ci sont désillusionnés par l'auteur, dans le visage de qui cette beauté intérieure s'est imparfaitement reflétée. Tout être aimé, même dans une certaine mesure, tout être est pour nous comme Janus, nous présentant le front qui nous plaît si cet être nous quitte, le front morne si nous le savons à notre perpétuelle disposition. Pour Albertine, la société durable avec elle avait quelque chose de pénible d'une autre façon que je ne peux dire en ce récit. C'est terrible d'avoir la vie d'une autre personne attachée à la sienne comme une bombe qu'on tiendrait sans qu'on puisse la lâcher sans crime. Mais qu'on prenne comme comparaison les hauts et les bas, les dangers, l'inquiétude, la crainte de voir crue plus tard des choses fausses et vraisemblables qu'on ne pourra plus expliquer, sentiments éprouvés si on a dans son intimité un fou. Par exemple, je plaignais M. de Charlus de vivre avec Morel. Aussitôt, le souvenir de la scène de l'après-midi me fit sentir le côté gauche de ma poitrine bien plus gros que l'autre. En laissant de côté les relations qu'ils avaient ou non ensemble, M. de Charlus avait dû ignorer au début que Morel était fou. La beauté de Morel, sa platitude, sa fierté avaient dû détourner le baron de chercher si loin, jusqu'au jour des mélancolies où Morel accusait M. de Charlus de sa tristesse, sans pouvoir fournir d'explication, l'insultait de sa méfiance, à l'aide de raisonnements faux, mais extrêmement subtils, le menaçait de résolutions désespérées, au milieu desquelles persistait le souci le plus retors de l'intérêt le plus immédiat. Tout ceci n'est qu'une comparaison. Albertine n'était pas folle. J'appris que ce jour-là avait eu lieu une mort qui me fit beaucoup de peine, celle de Bergotte. On sait que sa maladie durait depuis longtemps. Non pas celle, évidemment, qu'il avait eue d'abord et qui était naturelle. La nature ne semble guère capable de donner que des maladies assez courtes. Mais la médecine s'est annexée l'art de les prolonger. Les remèdes, la rémission qu'ils procurent, le malaise que leur interruption fait renaître, composent un simulacre de maladie que l'habitude du patient finit par stabiliser, par styliser, de même que les enfants toussent régulièrement par quinte longtemps après qu'ils sont guéris de la coqueluche. Puis les remèdes agissent moins, on les augmente, ils ne font plus aucun bien, mais ils ont commencé à faire du mal grâce à cette indisposition durable. La nature ne leur aurait pas offert une durée si longue. C'est une grande merveille que la médecine, égalant presque la nature, puisse forcer à garder le lit, à continuer sous peine de mort l'usage d'un médicament. Dès lors, la maladie artificiellement greffée a pris racine, est devenue une maladie secondaire mais vraie, avec cette seule différence que les maladies naturelles guérissent, mais jamais celles que crée la médecine, car elle ignore le secret de la guérison. Il y avait des années que Bergotte ne sortait plus de chez lui. D'ailleurs, il n'avait jamais aimé le monde, ou l'avait aimé un seul jour pour le mépriser, comme tout le reste, et de la même façon qui était la sienne, à savoir, non de mépriser parce qu'on ne peut obtenir, mais aussitôt qu'on a obtenu. Il vivait si simplement qu'on ne soupçonnait pas à quel point il était riche, et l'eût-on su qu'on se fût trompé encore, l'ayant cru alors avare, alors que personne ne fut jamais si généreux. Il l'était surtout avec des femmes, des fillettes pour mieux dire, et qui était honteuse de recevoir tant pour si peu de choses. Il s'excusait à ses propres yeux, parce qu'il savait ne pouvoir jamais si bien produire que dans l'atmosphère de se sentir amoureux. L'amour, c'est trop dire. Le plaisir un peu enfoncé dans la chair aide au travail des lettres, parce qu'il anéantit les autres plaisirs. Par exemple, les plaisirs de la société, ceux qui sont les mêmes pour tout le monde. Et même si cet amour amène des désillusions, du moins agite-t-il, de cette façon-là aussi, la surface de l'âme, qui sans cela risquerait de devenir stagnante. Le désir n'est donc pas inutile à l'écrivain pour l'éloigner des autres hommes d'abord et de se conformer à eux, pour rendre ensuite quelques mouvements à une machine spirituelle qui, passé un certain âge, a tendance à s'immobiliser. On n'arrive pas à être heureux, mais on fait des remarques sur les raisons qui empêchent de l'être et qui nous fussent restées invisibles sans ces brusques percées de la déception. Les rêves ne sont pas réalisables, nous le savons. Nous n'en formerions peut-être pas sans le désir, et il est utile d'en former pour les voir échouer et que leur échec instruise. Aussi Bergotte se disait-il « Je dépense plus que des multimillionnaires pour des fillettes, mais les plaisirs ou les déceptions qu'elles me donnent me font écrire un livre qui me rapporte de l'argent. » Économiquement, ce raisonnement était absurde, mais sans doute trouvait-il quelque agrément à transmuter ainsi l'or en caresses et les caresses en or. Nous avons vu, au moment de la mort de ma grand-mère, que la vieillesse fatiguée aimait le repos. Or, dans le monde, il n'y a que la conversation. Elle y est stupide, mais a le pouvoir de supprimer les femmes, qui ne sont plus que questions et réponses. Hors du monde, les femmes redeviennent ce qui est si reposant pour le vieillard fatigué, un objet de contemplation. En tout cas, maintenant, il n'était plus question de rien de tout cela. J'ai dit que Bergotte ne sortait plus de chez lui. Et quand il se levait à une heure dans sa chambre, c'était tout enveloppé de châles, de plaides, de tout ce dont on se couvre au moment de s'exposer à un grand froid ou de monter en chemin de fer. Il s'en excusait auprès des rares amis qu'il laissait pénétrer auprès de lui. Et montrant ses tartans, ses couvertures, il disait gaiement « Que voulez-vous, mon cher ? Anaxagore l'a dit, la vie est un voyage. » Il allait ainsi, se refroidissant progressivement. Petite planète qui offrait une image anticipée de la grande, quand, peu à peu, la chaleur se retirera de la terre, puis la vie. Alors, la résurrection aura pris fin. Car, si avant dans les générations futures que brillent les œuvres des hommes, encore faut-il qu'il y ait des hommes. Si certaines espèces d'animaux résistent plus longtemps au froid envahisseur, quand il n'y aura plus d'hommes, et à supposer que la gloire de Bergotte ait duré jusque-là, brusquement elle s'éteindra à tout jamais. Ce ne sont pas les derniers animaux qui le liront, car il est peu probable que, comme les apôtres à la Pentecôte, ils puissent comprendre le langage des divers peuples humains sans l'avoir appris. Dans les mois qui précédèrent sa mort, Bergotte souffrait d'insomnie et, ce qui est pire, dès qu'il s'endormait, de cauchemars qui, s'il s'éveillait, faisaient qu'il évitait de se rendormir. Longtemps il avait aimé les rêves, même les mauvais rêves, parce que grâce à eux, grâce à la contradiction qu'ils présentent avec la réalité qu'on a devant soi à l'état de veille, ils nous donnent, au plus tard dès le réveil, la sensation profonde que nous avons dormi. Mais les cauchemars de Bergotte n'étaient pas cela. Quand il parlait de cauchemars, autrefois il entendait des choses désagréables qui se passaient dans son cerveau. Maintenant, c'est comme venu du dehors de lui qu'il percevait une main munie d'un torchon mouillé qui, passée sur sa figure par une femme méchante, s'efforçait de le réveiller. D'intolérables chatouillements sur les hanches. La rage. parce que Bergotte avait murmuré en dormant qu'il conduisait mal, d'un cocher fou furieux qui se jetait sur l'écrivain et lui mordait les doigts, les lui sciait. Enfin, dès que dans son sommeil l'obscurité était suffisante, la nature faisait une espèce de répétition sans costume de l'attaque d'apoplexie qui l'emporterait. Bergotte entrait en voiture sous le porche du nouvel hôtel des Swann, voulait descendre. Un vertige foudroyant le clouait sur sa banquette. Le concierge essayait de l'aider à descendre, il restait assis, ne pouvant se soulever, dresser ses jambes. Il essayait de s'accrocher au pilier de pierre qui était devant lui, mais n'y trouvait pas un suffisant appui pour se mettre debout. Il consulta les médecins, qui, flattés d'être appelés par lui, virent dans ses vertus de grand travailleur, il y avait 20 ans qu'il n'avait rien fait, dans son surmenage, la cause de ses malaises. Ils lui conseillèrent de ne pas lire de contes terrifiants. Il ne lisait rien. De profiter davantage du soleil, indispensable à la vie. Il n'avait dû quelques années de mieux relatif qu'à sa claustration chez lui. De s'alimenter davantage, ce qui le fit maigrir et alimenta surtout ses cauchemars. Un de ses médecins, étant doué de l'esprit de contradiction et de taquinerie, dès que Bergotte le voyait en l'absence des autres, et pour ne pas le froisser, lui soumettait comme des idées de lui ce que les autres lui avaient conseillé. Le médecin contredisant, croyant que Bergotte cherchait à se faire ordonner quelque chose qui lui plaisait, le lui défendait aussitôt. Et souvent avec des raisons fabriquées si vite pour les besoins de la cause, que, devant l'évidence des objections matérielles que faisait Bergotte, le docteur contredisant était obligé, dans la même phrase, de se contredire lui-même, mais pour des raisons nouvelles, renforçait la même prohibition. Bergotte revenait à un des premiers médecins, homme qui se piquait d'esprit, surtout devant un des maîtres de la plume, et qui, si Bergotte insinuait « Il me semble pourtant que le docteur X m'avait dit, autrefois, bien entendu, que cela pouvait me congestionner le rein et le cerveau. » Souriait malicieusement, levait le doigt et prononçait « J'ai dit user, je n'ai pas dit abuser. Bien entendu, tout remède, si on exagère, devient une arme à double tranchant. » Il y a dans notre corps un certain instinct de ce qui nous est salutaire, comme dans le cœur de ce qui est le devoir moral, et qu'aucune autorisation du docteur en médecine ou en théologie ne peut suppléer. Nous savons que les bains froids nous font mal, nous les aimons. Nous trouverons toujours un médecin pour nous les conseiller, non pour empêcher qu'ils ne nous fassent mal. À chacun de ces médecins, Bergotte prit ce que, par sagesse, il s'était défendu depuis des années. Au bout de quelques semaines, les accidents d'autrefois avaient reparu. Les récents s'étaient aggravés. Affolé par une souffrance de toutes les minutes, à laquelle s'ajoutait l'insomnie coupée de brefs cauchemars, Bergotte ne fit plus venir de médecin et essaya, avec succès, mais avec excès, de différents narcotiques, lisant avec confiance le prospectus accompagnant chacun d'eux, prospectus qui proclamait la nécessité du sommeil, mais insinuait que tous les produits qu'il amène, sauf celui contenu dans le flacon qu'il enveloppait et qui ne produisait jamais d'intoxication, étaient toxiques et par là rendaient le remède pire que le mal. Bergotte les essaya tous. Certains sont d'une autre famille que ceux auxquels nous sommes habitués, dérivés par exemple de l'amyle et de l'éthyle. On absorbe le produit nouveau, d'une composition toute différente, qu'avec la délicieuse attente de l'inconnu. Le cœur bat comme à un premier rendez-vous. Vers quels genres ignorés de sommeil, de rêve, le nouveau venu va-t-il nous conduire? Il est maintenant en nous, il a la direction de notre pensée. De quelle façon allons-nous nous endormir? Et une fois que nous le serons, par quels chemins étranges, sur quelles cimes, dans quels gouffres inexplorés, le Maître Tout-Puissant nous conduira-t-il? quel groupement nouveau de sensations allons-nous connaître dans son voyage? Nous mènera-t-il au malaise, à la béatitude, à la mort? Celle de Bergotte survint la veille de ce jour-là où il s'était ainsi confié à un de ses amis. Ami, ennemi, trop puissant. Il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique, ayant écrit que, dans la vue de Delphes de Vermeer, prêtée par le musée de la Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua, pour la première fois, des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de mur. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, » disait-il. « Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. » Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné le premier pour le second. « Je ne voudrais pourtant pas, se disait-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. » Il se répétait « Petit pan de mur jaune, avec un auvent, petit pan de mur jaune. » Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites. Ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Mort à jamais? Qui peut le dire? Certes, les expériences spirites, pas plus que les dogmes religieux, n'apportent la preuve que l'âme subsiste. Ce qu'on peut dire, c'est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec le fait d'obligations contractées dans une vie antérieure. Il n'y a aucune raison, dans nos conditions de vie sur cette terre, pour que nous nous croyions obligés à faire le bien, à être délicats, même à être polis, ni pour l'artiste cultivé à ce qu'il se croit obligé de recommencer 20 fois un morceau dont l'admiration qu'il excitera importera peu à son corps mangé par les vers. Comme le pan de mur jaune que peignit avec tant de science et de raffinement un artiste à jamais inconnu, à peine identifié sous le nom de Vermeer. Toutes ces obligations, qui n'ont pas leur sanction dans la vie présente, semblent appartenir à un monde différent, fondé sur la bonté, le scrupule, le sacrifice. Un monde entièrement différent de celui-ci, et dont nous sortons pour naître à cette terre, avant peut-être d'y retourner revivre, sous l'empire de ces lois inconnues auxquelles nous avons obéi, parce que nous emportions l'enseignement en nous, sans savoir qui les y avait tracés. Ces lois, dont tout travail profond de l'intelligence nous rapproche, et qui sont invisibles seulement. et encore pour les sons. De sorte que l'idée que Behemoth n'était pas mort à jamais est sans invraisemblance. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres disposés trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes déployées, et semblaient, pour celui qui n'était plus, les symboles de sa résurrection. J'appris, ai-je dit, ce jour-là que Bergotte était mort, et j'admirai l'inexactitude des journaux qui, reproduisant les uns et les autres une même note, disaient qu'il était mort la veille. Or, la veille, Albertine l'avait rencontré, me raconta-t-elle le soir même, et cela l'avait même un peu retardé, car il avait causé assez longtemps avec elle. C'est sans doute avec elle qu'il avait eu son dernier entretien. Elle le connaissait par moi, qui ne le voyais plus depuis longtemps. Mais comme elle avait eu la curiosité de lui être présentée, j'avais, un an auparavant, écrit au vieux maître pour la lui amener. Il m'avait accordé ce que j'avais demandé, tout en souffrant un peu, je crois, que je ne le revisse que pour faire plaisir à une autre personne, ce qui confirmait mon indifférence pour lui. Ces cas sont fréquents. Parfois, celui ou celle qu'on implore, non pour le plaisir de causer de nouveau avec lui, mais pour une tierce personne, refuse si obstinément que notre protégé croit que nous nous sommes targués d'un faux pouvoir. Plus souvent, le génie ou la beauté célèbre consentent, mais humiliés dans leur gloire, blessés dans leur affection, ne nous gardent plus qu'un sentiment amoindri, douloureux, un peu méprisant. Je devinai longtemps après que j'avais faussement accusé les journaux d'inexactitude, car ce jour-là, Albertine n'avait nullement rencontré Bergotte. Mais je n'en avais point eu un seul instant le soupçon, tant elle me l'avait conté avec naturel, et je n'appris que bien plus tard l'art charmant qu'elle avait de mentir avec simplicité. Ce qu'elle disait, ce qu'elle avouait, avait tellement les mêmes caractères que les formes de l'évidence, ce que nous voyons, ce que nous apprenons d'une manière irréfutable, qu'elle se met ainsi dans les intervalles de la vie les épisodes d'une autre vie dont je ne soupçonnais pas alors la fausseté et dont je n'ai eu que beaucoup plus tard la perception. J'ai ajouté « quand elle avouait ». Voici pourquoi. Quelquefois, des rapprochements singuliers me donnaient à son sujet des soupçons jaloux où, à côté d'elle, figurait dans le passé, ou hélas dans l'avenir, une autre personne. Pour avoir l'air d'être sûre de mon fait, je disais le nom et Albertine me disait « Oui, je l'ai rencontré il y a 8 jours, à quelques pas de la maison. Par politesse, j'ai répondu à son bonjour. J'ai fait 2 pas avec elle. Mais il n'y a jamais rien eu entre nous. Il n'y aura jamais rien. » Or, Albertine n'avait même pas rencontré cette personne, pour la bonne raison que celle-ci n'était pas venue à Paris depuis 10 mois. Mais mon amie trouvait que nier complètement était peu vraisemblable. D'où cette courte rencontre fictive, dite si simplement que je voyais la dame s'arrêter, lui dire bonjour, faire quelques pas avec elle. Le témoignage de mes sens, si j'avais été dehors à ce moment, m'aurait peut-être appris que la dame n'avait pas fait quelques pas avec Albertine. Mais si j'avais su le contraire, c'était par une de ces chaînes de raisonnement où les paroles de ceux en qui nous avons confiance insèrent de fortes mailles, et non par le témoignage des sens. Pour invoquer ce témoignage des sens, il eût fallu que j'eusse été précisément dehors, ce qui n'avait pas eu lieu. On peut imaginer pourtant qu'une telle hypothèse n'est pas invraisemblable. J'aurais pu être sortie et passée dans la rue à l'heure où Albertine m'aurait dit, ce soir, ne m'ayant pas vue, qu'elle avait fait quelques pas avec la dame, et j'aurais su alors qu'Albertine avait menti. Est-ce bien sûr encore ? Une obscurité sacrée se fût emparée de mon esprit. J'aurais mis en doute que je l'avais vue seule. À peine aurais-je cherché à comprendre par quelle illusion d'optique je n'avais pas aperçu la dame. Et je n'aurais pas été autrement étonnée de m'être trompée. car le monde des astres est moins difficile à connaître que les actions réelles des êtres, surtout des êtres que nous aimons, fortifiés qu'ils sont contre notre doute par des fables destinées à les protéger. Pendant combien d'années peuvent-ils laisser notre amour apathique croire que la femme aimée a, à l'étranger, une sœur, un frère, une belle-sœur qui n'ont jamais existé? Le témoignage des sens est lui aussi une opération de l'esprit, où la conviction crée l'évidence. Nous avons vu bien des fois le sens de Louis apporter à Françoise non le mot qu'on avait prononcé, mais celui qu'elle croyait le vrai, ce qui suffisait pour qu'elle n'entendît pas la rectification implicite d'une prononciation meilleure. Notre maître d'hôtel n'était pas constitué autrement. Monsieur de Charlus portait à ce moment-là, car il changeait beaucoup, des pantalons fort clairs et reconnaissables entre mille. Or, notre maître d'hôtel, qui croyait que le mot « pissotière », le mot désignant ce que monsieur de Rambuteau avait été si fâché d'entendre le duc de Guermantes appeler un édicule Rambuteau, était « pistière », n'entendit jamais dans toute sa vie une seule personne dire « pissotière », bien que bien souvent on prononçât ainsi devant lui. Mais l'erreur est plus entêtée que la foi et n'examine pas ses croyances. Constamment, le maître d'hôtel disait « Certainement, monsieur le baron de Charlus a pris une maladie pour rester si longtemps dans une pistière. Voilà ce que c'est que d'être un vieux coureur de femmes. Il en a les pantalons. Ce matin, madame m'a envoyé faire une course à Neuilly. À la pistière de la rue de Bourgogne, j'ai vu entrer monsieur le baron de Charlus. En revenant de Neuilly, bien une heure après, j'ai vu ses pantalons jaunes dans la même pistière, à la même place, au milieu, où il se met toujours pour qu'on ne le voie pas. Je ne connais rien de plus beau, de plus noble et plus jeune qu'une nièce de madame de Guermantes. Mais j'entendis le concierge d'un restaurant où j'ai... Je ne connais rien de plus beau, de plus noble et de plus jeune qu'une nièce de madame de Guermantes. Mais j'entendis le concierge d'un restaurant, où j'allais quelquefois, dire sur son passage « Regarde-moi cette vieille rombière, quelle touche, et ça a au moins 80 ans !» Pour l'âge, il me paraît difficile qu'il le crût. Mais les chasseurs groupés autour de lui, qui ricanait chaque fois qu'elle passait devant l'hôtel pour aller voir non loin de là ses deux charmantes grand-tantes, mesdames de Fezensac et de Ballery, virent sur le visage de cette jeune beauté les 80 ans que, par plaisanterie ou non, avait donné le concierge à la vieille rombière. On les aurait fait tordre en leur disant qu'elle était plus distinguée que l'une des deux caissières de l'hôtel, qui, rongée d'eczéma, ridicule de grosseur, leur semblait belle femme. Seul, peut-être, le désir sexuel eût été capable d'empêcher leur erreur de se former, s'il avait joué sur le passage de la prétendue vieille rombière, et si les chasseurs avaient brusquement convoité la jeune déesse. Mais, pour des raisons inconnues, et qui devaient être probablement de nature sociale, ce désir n'avait pas joué. Il y aurait du reste beaucoup à discuter. L'univers est vrai pour nous tous et dissemblable pour chacun. Et si nous n'étions pas, pour l'ordre du récit, obligés de nous borner à des raisons frivoles, combien de plus sérieuses nous permettraient de montrer la minceur menteuse du début de ce volume où, de mon lit, j'entends le monde s'éveiller, tantôt par un temps, tantôt par un autre. Oui. J'ai été forcée d'amincir la chose et d'être mensongée. Mais ce n'est pas un univers, c'est des millions, presque autant qu'il existe de prunelles et d'intelligences humaines qui s'éveillent tous les matins. Pour revenir à Albertine, je n'ai jamais connu de femme douée plus qu'elle d'heureuses aptitudes aux mensonges animés, colorée des teintes mêmes de la vie, si ce n'est une de ses amies, une de mes jeunes filles en fleurs, aussi rose comme Albertine, mais dont le profil irrégulier, creusé, puis proéminent à nouveau, ressemblait tout à fait à certaines grappes de fleurs roses dont j'ai oublié le nom et qui ont ainsi de longs et sinueux rentrants. Cette jeune fille était, au point de vue de la fable, supérieure à Albertine, car elle n'y mêlait aucun des moments douloureux. Des sous-entendus rageurs qui étaient fréquents chez mon amie. J'ai dit pourtant qu'elle était charmante quand elle inventait un récit qui ne laissait pas de place au doute, car on voyait alors devant soi la chose. Pourtant, imaginez qu'elle disait, en se servant comme vue de sa parole. La vraisemblance seule inspirait Albertine, nullement le désir de me donner de la jalousie. Car Albertine, sans être intéressée peut-être, aimait qu'on lui fît des gentillesses. Or, si au cours de cet ouvrage, j'ai eu et j'aurai bien des occasions de montrer comment la jalousie redouble l'amour, c'est au point de vue de l'amant que je me suis placée. Mais pour peu que celui-ci ait un peu de fierté, et dût-il mourir d'une séparation, il ne répondra pas à une trahison supposée par une gentillesse. Il s'écartera, ou, sans s'éloigner, s'ordonnera de feindre la froideur. Aussi, est-ce en pure perte pour elle que sa maîtresse le fait en souffrir? Dissipe-t-elle, au contraire, d'un mot adroit, de tendres caresses, les soupçons qui le torturaient, bien qu'il s'y prétendît indifférent? Sans doute l'amant n'éprouve pas cet accroissement désespéré de l'amour où le hausse la jalousie, mais cessant brusquement de souffrir, heureux, attendri, détendu comme on l'est après un orage quand la pluie est tombée, et qu'à peine sent-on encore sous les grands marronniers s'égoutter à longs intervalles les gouttes suspendues, que déjà le soleil reparut colore, il ne sait comment exprimer sa reconnaissance à celle qui l'a guérie. Albertine savait que j'aimais à la récompenser de ses gentillesses, et cela expliquait peut-être qu'elle inventa, pour s'innocenter, des aveux naturels comme ces récits dont je ne doutais pas et dont un avait été la rencontre de Bergotte, alors qu'il était déjà mort. Je n'avais su jusque-là des mensonges d'Albertine que ceux que, par exemple, à Balbec, m'avait rapporté Françoise, et que j'ai omis de dire, bien qu'ils m'eussent fait si mal. Comme elle ne voulait pas venir, elle m'a dit « Est-ce que vous ne pourriez pas dire à monsieur que vous ne m'avez pas trouvé, que j'étais sortie ?» Mais les inférieurs, qui nous aiment comme Françoise m'aimait, ont du plaisir à nous froisser dans notre amour-propre.